La tribune du développement.
La tribune du développement, c'est votre espace d'information et de sensibilisation.
La tribune du développement, c'est votre émission au profit du développement local.
Économie,
environnement,
société,
éducation et santé.
C'est dans la tribune du développement, une émission de Radio Manivelle d'Anno. Présentation. Assurer à sa famille de la nourriture toute une saison est un parcours de combattant pour de nombreuses familles rurales. Les productions n'arrivent plus à couvrir les besoins alimentaires. Les rendements baissent d'année en année malgré l'agrandissement des espaces cultivables. La vulnérabilité alimentaire est donc une constante. Mais sans se résigner, plusieurs producteurs se battent pour améliorer leur quotidien. Mais lorsqu'on leur demande quelles sont les raisons de cette baisse, ils indiquent le ciel et attribuent aussi la cause aux actions de l'homme. En un mot, ils parlent de changement climatique. Qu'est-ce que c'est que le changement climatique? Comment les populations rurales font-elles face à ces changements? Quel type de mesures d'adaptation et d'atténuation celles-ci et leurs partenaires développe pour amoindrir les chocs face à ces changements climatiques. Le cas des producteurs du Yoba dans le sud-ouest du Burkina Faso. Ce magazine se veut comme une contribution aux actions de lutte de plusieurs familles pour vaincre l'insécurité alimentaire. C'est ce à quoi va répondre cette émission. Ce magazine fait partie d'une série radiophonique soulignant l'importance de la communication en tant qu'outil majeur de développement. Il est produit grâce au soutien du Fonds global de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires AMARC et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Réalisation et montage, Waboui Bakouan, production Radio Manivelle d'Anno. Amis des zones, bonne écoute. Burkina Faso, dans la plupart des familles rurales, c'est une fierté d'avoir dans son grenier des vivres de 2 à 3 années en réserve. C'est le signe de la richesse de cette famille.
Chez nous, les Dagara, quelqu'un qui est issu d'une famille aisée, quand il va faire la cour à une fille, les parents de cette dernière lui disent d'aller sans crainte car dans cette famille, elle n'aura jamais faim.
Mais de nos jours, rares sont les familles qui arrivent à assurer leur alimentation avec leur production. La vulnérabilité alimentaire est donc une constante. Un producteur.
Comment tu en y a eu mataki à Elenga? Abaka à Yarema Mata à Yune Teba.
Avant, on pouvait avoir des céréales de 3 années, ce qui n'est pas le cas présentement. On ne peut même pas avoir des céréales pendant 1 an pour se nourrir. Et voilà, et quand la difficulté vient, ce sont les feuilles qu'on cueille pour se nourrir, ce qui fait qu'on n'a pas la force, comme nos grands-parents. Avant, si on avait des céréales de 2-3 ans, c'est parce que nos grands-parents ne vendaient pas les céréales. Mais présentement, à cause de l'argent, nous vendons tout ce que nous produisons.
Tout est en train de changer. En tant que producteur agricole, il ne sait plus avec exactitude situer le début et la fin de la saison pluvieuse.
Village de Complan.
Je m'appelle Jean-François du village de Complan. On n'a pas peur puisque chaque année c'est comme ça on débute en attendant la pluie malgré sa rareté.
Le directeur provincial de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du Yoba, Placide Yen.
Au niveau de la province du Yoba, il faut reconnaître que les pluies ont démarré très tôt, vers fin avril, début mai. Après ce démarrage précoce, il y a eu rupture des pluies qui ont redémarré, en tout cas dans ces jours-ci. Donc ça fait que, bon, aujourd'hui, la saison, selon les communes, est installée de manière disparate. À tel point que, bon, quand vous prenez la zone, la commune de Dano, nous sommes toujours au stade levé et les activités les plus menées, c'est toujours le semi, labour semi. Et quand vous prenez par exemple la zone de Dissine, dans la zone de Nakar et autres, nous sommes déjà comme activité principale au sarclage et nous voyons aussi les plants qui sont au stade talage et puis montaison. Voilà, donc on constate vraiment cette différence, en tout cas au niveau de la campagne.
C'est pourquoi juste là, plusieurs producteurs continuent à s'aimer et d'autres à labourer, même si certains sont inquiets.
Ah, ça nous fait peur vraiment. Sinon, souvent quand on voit le ciel, bon, c'est un peu trop haut, souvent ça approche. Maintenant, on voyait que c'est trop sec. Bon, comme ça, quand on avait commencé à estimer, il y a quelque part qui sont poussés. Bon, c'est là-bas on est en train d'enlever les zéros en attendant pour attendre que la pluie vienne. On commence à semer le parc qui n'est pas semé.
Pourtant, il y a de cela 40 ans, l'observation de la nature seule permettait de déterminer le type de pluviométrie et même de dire si la récolte sera bonne ou pas.
Pendant l'hivernage, il y a de ces types d'oiseaux, quand ça quitte le nord pour aller vers le sud, on se disait qu'il va pleuvoir ce jour. Il y a également des gens qui se servent des oiseaux comme baromètre pour savoir s'il va pleuvoir, oui ou non. Ils regardent les oiseaux. Si les oiseaux font leur nid un peu haut, ils se disent qu'il va beaucoup pleuvoir. Et quand ces oiseaux-là font leur nid un peu plus bas, ils interprètent qu'il ne va pas pleuvoir assez. L'autre cas aussi, c'est quand on aperçoit les fourmis qui sont en train de transporter les œufs, voilà, on se dit qu'il va pleuvoir aussi. Préemptivement, ce n'est pas le cas parce que nous voyons à des moments les fourmis transporter les œufs, mais il ne pleut pas.
Mais de nos jours, il faut mieux faire parfois confiance aux prévisions météorologiques, même si c'est parfois aléatoire.
Pour moi, les années antérieures, les agents de l'agriculture venaient nous dire comment il allait pleuvoir et cette année, on les a pas encore vu. Pour le moment, nous sommes en attente.
Le directeur provincial de l'agriculture du Yoba, Placide Yen.
Ben, si nous suivons au niveau des prévisions, donc je pense que nous avons suivi un peu les prévisions au niveau africain. Je crois qu'ils avaient prévu en tout cas un démarrage tardif à la normale, c'est-à-dire qu'il y aura des pluies précoces, mais il y aura un petit flottement et sec. Et c'est ce que nous avons constaté exactement, mais nous disons que ça peut être rattrapé parce que les prévisions prévoient que les pluies peuvent aller jusqu'en septembre et fin septembre. Et si nous prenons du maïs, c'est que l'État, les semences que l'État a distribuées du maïs de 90 jours, nous nous disons que si les pluies, en tout cas, se terminent en fin septembre, le maïs aura bouclé son cycle.
Comment se fait-il que juste là, les producteurs n'ont pas encore les données des prévisions météorologiques de cette campagne agricole?
Ils ont donné les explications sur la télé, c'est sur les médias. Et je crois qu'à notre niveau, les agents d'encadrement tentent de faire le relais de l'information afin que les producteurs ne puissent pas soit trop en retard ou trop en avance, parce que tout dépendra en tout cas des cultures. Donc je pense que l'information, nous sommes en train de la relayer à travers notre réseau d'encadrement.
À 40 ans en arrière, les anciens se rappellent qu'au mois de juin, la saison était bien avancée.
Nous, on semait avant la fête de la Pâque. En avril, on avait déjà les semis poussés. Dans ces derniers temps, on dirait que c'est l'année qui a changé ou bien c'est le mois, on ne comprend plus. Cette année, on a eu la pluie dans le mois de mai. Jusqu'à présent, bon, on n'a pas eu de semis poussés d'abord, on ne comprend pas.
Avant, le coin était boisé, il y avait les animaux. On ne pouvait même pas s'asseoir dehors sans être attaqué par un animal sauvage. Quand j'étais enfant, j'ai vu partout il y avait les arbres, les forêts. Et quand on cultivait juste une petite portion, et on pouvait manger à notre faim jusqu'à la saison prochaine. Mais à l'heure actuelle, il n'y a plus les zones boisées, tout est vide. On cultive plus, mais on ne mange pas à notre faim.
Tout le monde est donc conscient. La nature change d'année en année. Est-ce cela qu'on appelle les changements climatiques? La réponse du directeur provincial de l'agriculture du Yoba, Placide Yen.
Ben, le changement climatique, nous l'avons souvent expliqué. On nous a dit que bon, c'est un effet quand même assez normal. On dit que le changement climatique, c'est la production des gaz et autres à effet de serre qui Mais grâce à l'effet de serre, en tout cas, il y a quand même, on arrive à vivre. Mais ce phénomène trop accéléré aussi devient, par exemple, nocif, en tout cas pour la vie humaine. C'est ce qui fait que, en tout cas, de par les pratiques anthropiques aujourd'hui, nous sommes arrivés, en tout cas, à un niveau où la production des gaz à effet de serre est en train de produire des effets très néfastes, en tout cas sur l'existence humaine. Vous voyez, par exemple, surtout, on a des inondations, on a des sécheresses assez prolongées. En tout cas, pas mal d'effets pervers dus, en tout cas, au changement climatique.
À cette explication scientifique et rationnelle, voyons comment le producteur lui-même explique ce changement climatique. Suivons ce micro-trottoir.
Pour moi, c'est nous-mêmes qui avons changé de comportement, puisque nous ne faisons plus ce que faisaient nos grands-parents avant. Nous coupons trop les arbres, ce qui fait que quand la pluie se prépare, ça se transforme en vent et ça ramasse toute la bonne terre, ce qui une difficulté pour nous. La coupe abusive du bois est due au fait que nous sommes pauvres. Donc, certains coupent ces arbres, c'est pour vendre. C'est ce qui explique la déforestation.
Ainsi, on se rend compte que le producteur s'explique aussi les raisons du changement climatique. Même si certaines connaissances ne sont qu'empiriques, il sait cependant développer des stratégies pour atténuer ces effets. Et de façon générale, au sud-ouest du Burkina Faso, et au Yoba particulièrement, lorsqu'il ne pleut pas, les populations d'Agara savent, à partir de leurs savoirs locaux, atténuer les effets de la sécheresse. Quelques réactions.
Chez nous, les Dagara, quand il ne pleut pas, ça peut être une femme et un homme qui ont fait des rapports au dehors, ou encore ça peut être qu'on a enterré un cadavre qui ne devrait pas être enterré avec des habits, et par conséquent on déterre le corps, voilà, on enlève ses habits et qu'on l'enterre après, ce qui peut amener la pluie. Il y a aussi la décision du chef de terre, quand il ne pleut pas, il réunit la population pour faire des rites coutumiers, ce qui peut amener aussi la pluie. Il y a le cas du marché, le chef de terre peut interdire aussi la tenue des marchés, parce que tous ceux qui viennent au marché ne sont pas des humains. Et il y a aussi que quand on se croise au marché, il y a des choses qui peuvent se passer qui vont empêcher que la pluie tombe.
L'esprit rationnel ne comprendrait pas les agissements des populations locales. Or, c'est fort de ces savoirs locaux que les agriculteurs ne se résignent pas et cherchent sans cesse à s'adapter et aussi à adapter leur production. Un des grands défis face au changement climatique, c'est l'adaptation. Les producteurs le savent mieux que quiconque, eux qui subissent de plein fouet ses conséquences.
Présentement, il n'y a plus de terres cultivables. On se fatigue, on travaille plus, mais on gagne peu. Pourtant, avant, il suffisait seulement de cultiver toute une petite portion et on gagnait assez à manger.
Le coordinateur du programme de développement de l'agriculture PDA, Nova Poda.
Les périodes auxquelles ils faisaient les semis, ce n'est plus les mêmes périodes. En tout cas, eux-mêmes disent qu'ils sentent vraiment qu'il y a réellement un changement. Et quand ils utilisent, je prends l'exemple des semences améliorées, quand ils utilisent leurs anciennes semences, ils voient que la production a diminué énormément. Il y a ça. Et ensuite, aussi, les rendements, ils disent qu'ils sentent que les rendements baissent. Et dans ils sentent, en tout cas, ils ressentent ces effets-là. Ça fait que, bon, quand on leur demande de faire des actions qui vont permettre de changer un peu ce niveau, puisque la principale activité, c'est l'agriculture, ça ne pose pas de problème à leur niveau.
À l'heure actuelle, pour améliorer sa récolte et même espérer récolter, il faut de la semence améliorée. C'est conscient du risque de l'insécurité alimentaire que le gouvernement burkinabé a lancé le 2 juin dernier. dernier la campagne de distribution des intrants et des semences améliorées. Les intrants comme l'engrais et l'urée sont devenus une nécessité, même si la promotion de la fumée organique reste d'actualité. Dans le processus d'adaptation et d'atténuation des effets du changement climatique, plusieurs partenaires accompagnent le monde paysan avec des paquets technologiques. Certains paquets sont nouveaux et méconnus des producteurs, d'autres par contre ne sont que l'amélioration de leur technique ancestrale. Abdoulaye Ouédrago.
Parlant de paquets, il faut dire que ici nous travaillons un peu dans une certaine sorte de symbiose avec la nature, mais aussi dans une certaine symbiose avec l'être lui-même. Parce que si vous produisez et que vous n'utilisez pas les fruits de la production pour être en bonne santé, il y a problème. Voilà pourquoi nous avons essayé de varier. Nous sommes partis du riz, de la production de légumes, de l'aménagement des bas-fonds. Et pour encore accroître les compléments, pour permettre à ce qu'on mange d'être encore plus nutritif, plus énergétique, on a introduit le volet moringa. Vous êtes sans ignorer que le moringa, c'est l'une des plantes les plus riches au monde, que ce soit ses feuilles, que ce soit ses racines, que ce soit son écorce. En tout cas, tout est utile pour l'être humain.
Le programme de développement de l'agriculture de la coopération allemande à travers le projet de lutte contre l'érosion, récupération et valorisation des terres dégradées, adaptation au changement climatique ou EKF en allemand, a fait des cordons pierreux son cheval de bataille. Notre confrère Yaoum Ezoumer Somda est allé à la rencontre du coordinateur Nova Poda pour mieux comprendre l'importance des cordons pierreux dans la restauration des sols et de l'amélioration de la production. Suivons son interview.
Monsieur Poda, vous apportez un appui aux producteurs, mais nous allons nous intéresser aux cordons pierreux. Parlez-nous de l'importance des cordons pierreux.
Il faut dire que les cordons tels qu'on les réalise et le type de cordon que nous réalisons, c'est les cordons trois pierres. Maintenant, en fait, ce sont des ouvrages anti-érosifs qui ont pour rôle de freiner la vitesse de l'eau. C'est pas que ça arrête totalement l'eau, mais ça casse la vitesse de l'eau et ça permet à l'eau de continuer à s'infiltrer, à passer, mais avec une vitesse moindre. Pourquoi on le fait ? Pour éviter que le ruissellement de l'eau n'entraîne toute la terre fertile, dont la conséquence est que les hautes terres seront dégradées et cette terre fertile qui est entraînée également par l'eau va entraîner l'ensablement des bas-fonds.
Nous avons été dans plusieurs champs de producteurs. Ceux-ci nous ont parlé de l'importance des cordons pierreux. Faites-nous le bilan de la pose des cordons pierreux.
En termes de quantité de cordons réalisés, je peux dire que présentement, nous sommes à plus de 500 km de cordons qui sont faits. Et en termes d'hectares, à partir de 2014 à nos jours, on a plus de 12 700 hectares qui sont protégés contre l'érosion hydrique.
Comment vous faites, M. Poda, puisque nous savons que les producteurs sont réfractaires? Quelle est votre méthode d'approche pour que les producteurs acceptent vos paquets technologiques?
Notre démarche consiste d'abord à essayer de voir un peu quelle est la configuration de la zone et ensuite quel est son niveau de dégradation et ensuite identifier un peu l'ensemble de l'impluvium que nous appelons bassin versant et identifier les limites de cet impluvium-là. Maintenant, on essaye de tenir des rencontres avec les premiers responsables des villages pour expliquer brièvement ce que nous voulons faire. On leur demande de restituer ce qu'ils ont reçu au niveau de l'atelier, là, ce qu'ils ont appris au niveau de l'atelier.
On sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Néanmoins, est-ce que vous constatez de bonnes pratiques?
Bon, les bonnes pratiques, qu'on peut dire, quand on fait les théâtres forums, il y a les producteurs, ils citent le défrichement contrôlé, ils citent la réalisation des cordons, ils citent un peu les reboisements. Je crois que c'est des actions qu'ils connaissent maintenant, nous on ne fait que à renforcer ces actions-là, atténuer un peu les effets des changements climatiques.
Monsieur Poda, je vous remercie.
Merci à vous bien.
Vous êtes sur Radio Manivelle. Radio Manivelle, la voix du Sud-Ouest.
Cette rencontre permet de voir une partie de la gamme des moyens d'adaptation offerts par les partenaires techniques au développement. Et le PDA n'est pas le seul. Le gouvernement burkinabé aussi diversifie ses offres. On le sait, l'agriculture burkinabé est beaucoup de type pluvial. C'est pourquoi les caprices de la pluviométrie se ressentent sur les rendements agricoles et créent un cercle vicieux de vulnérabilité. C'est dans cette logique que l'aménagement des bas-fonds est apparu comme une réponse à l'adaptation au changement climatique. La Fondation Dreyer, une ONG également allemande dont le siège est à Dano, a un volet agriculture axé sur l'aménagement des bas-fonds. Ouedraogo Abdoulaye, chargé des questions d'écologie et d'agriculture à la Fondation Dreyer.
Aujourd'hui, la question des céréales est devenue un peu problématique parce que dû à ce déficit-là, les rendements céréales commencent à baisser et des fois même les paysans ne récoltent pas grand-chose. Avec le nouveau système à partir duquel on est parti avec leur expérience, ils réussissent à récolter en tout cas quelque chose parce que dans notre système d'aménagement, on a des paysans qui vont jusqu'à 5, 6, 7, voire 7 tonnes hectares, ce qui est déjà un élément assez important.
Depuis une vingtaine d'années, l'introduction plus ou moins heureuse de la culture du riz a induit de nouveaux modes alimentaires. À la plaine rizicole de Moturi aménagée par la Fondation Dreyer, les producteurs rassurent qu'avec leur production de contre-saison de maïs, de riz et de légumes, ils sont à l'abri de la vulnérabilité alimentaire. Les précisions également d'Adoulaye Ouedraogo.
Au niveau du périmètre de Moturi, il faut dire que c'est un périmètre particulier parce qu'il a une retenue d'eau à peu près 300 000 mètres cubes, ce qui permet de stocker en saison de pluie et en saison sèche. Ça leur permet de faire haute production, notamment le maïs. Et puis tout ce qu'il y a comme légumes, choux, tomates, oignons, ce qui leur permet vraiment d'avoir des revenus substantiels. C'est ce barrage-là qui fait qu'au niveau de Moturi, on a, je pourrais dire, il y a certains producteurs qui font trois productions annuellement. Ils font d'abord le riz de juin à septembre-octobre. De octobre à février, ils font une autre production, soit la maraîchère-culture, les choux, les oignons. Et automatiquement après, ils passent peut-être à la tomate et aux aubergines. Donc on a en tout cas trois productions dans le même bas-fond annuellement.
Nous l'avons dit, plusieurs projets et programmes accompagnent les efforts du gouvernement. Notre consoeur Franceline Sommet est allée dans les champs aménagés par le programme de développement de l'agriculture avec des cordons pierreux. Elle s'interroge sur l'apport des cordons pierreux dans la restauration des sols et de l'amélioration de la productivité. Suivons son reportage.
Les torses nues, les dabas font des éternels va-et-vient. L'odeur de la terre fraîchement remuée embaume l'air. Nous sommes dans le champ de Somda Deni Badé, dans le village de Kompé. C'est un cinquantenaire au corps noué de rides, mais qui tient encore sur ses pieds. Lui, ses frères et quelques invités cultivent. Ce qui frappe au premier regard, ce sont les cordons pierreux. Comme des serpents, ils serpentent le champ et se perdent au loin dans les terrains vagues inexploités.
Ça beaucoup nous a arrangé en tout cas. Il y a des coins même avant qu'on cultive, on ne gagnait rien même. Mais maintenant, on voit l'eau là, quand ça, souvent ça prend des outils de venir, ça ne part pas. Donc l'eau part tout doucement. Tu vois que la terre revient riche un peu. Donc on gagne plus qu'avant qu'on ne cultive.
Maintenant, on dit que c'est un bon palais.
En ce milieu de mois de juin, il y a une semaine qu'il n'a pas plu ici, mais le sol est encore humide.
Ah bon, vraiment, là-bas, quand il pleut un peu, mais ça peut faire au moins trois semaines, mais où il y a le cordon pied là, la terre est toujours bonne. Vraiment, c'est toujours irrigué, c'est bien fait.
Pour l'agriculteur Somda, la différence est nette entre avant et après la pose des cordons pierreux.
Où il y a le cordon pied et tu se mets de l'autre côté, tu vois où tu as semé là. Donc ça pousse et puis c'est bien en forme, ça donne bien.
Un peu plus loin, c'est un terrain vague et rocailleux. Selon le cinquantenaire, il y a 10 ans, c'était un champ. Aujourd'hui, il ne produit plus. Mais avec la pose des cordons pierreux, la végétation est en train de renaître. En effet, le PDA a allié la plantation le long des cordons pierreux. Mais M. Somda se désole lorsqu'il apprend que certaines personnes détruisent ses ouvrages. Malgré le poids de l'âge, le cinquantenaire, de temps en temps, replace une pierre. La survie de sa famille, d'avoir une bonne récolte, dépend de ce long serpent de cailloux.
Vous êtes sur Radio Manivelle. Radio Manivelle, la voix du Sud-Ouest. La voix du Sud-Ouest.
Les changements climatiques ont entraîné une obligation pour les producteurs à s'adapter sans cesse. De plus, l'utilisation abusive et incontrôlée des herbicides et autres pesticides de qualité douteuse n'est pas sans conséquences. Au terme de notre magazine, on retiendra que face au changement climatique, dont parfois l'homme n'a plus le contrôle, deux options s'offrent à lui. Se résigner et attendre sa fin ou espérer être un combattant et rechercher les voies et moyens pour atténuer les chocs et développer par la même occasion des stratégies d'adaptation. Nous pensons que la plupart des producteurs ont préféré la deuxième option. Et sans être des acteurs passifs qui consomment les nouvelles technologies, ils les confrontent souvent à leurs connaissances et font parfois des synthèses heureuses. C'est ce courage des producteurs du Yoba que nous avons voulu montrer à travers ce magazine. Ce magazine fait partie d'une série radiophonique soulignant l'importance de la communication en tant qu'outil majeur de développement. Il est produit grâce au Fonds global de l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires AMARC et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. Réalisation, montage et mixage Waboué Bakouan, production Radio Manivelle. Amis auditeurs des zones, à la prochaine. C'était
la tribune du développement.
C'est la sensibilisation autour de toutes les questions de développement local.
Une émission de Radio Manivelle d'Allo.
La voix du Sud-Ouest. La voix du Sud-Ouest.